quotidien avec Hélène Denis.
Mercredi 22 juillet 2026, j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme. Mathieu, ça va?
Oui, j'ai un score de 74 pour mon sommeil.
OK, ça veut dire quoi ça?
Ça veut pas dire grand-chose pour ceux qui...
qui n'ont pas de montre comme vous.
Exactement.
Oui, mais est-ce que c'est quand même positif? Ça veut dire que votre nuit a été paisible?
Paisible, oui. C'est pas, ouais. C'est pas une... J'ai jamais des nuits assez longues. Mais ça,
ouais,
c'est, ce que vous voulez.
C'est le problème de bien des gens. Ouais. Vous n'avez pas rêvé, j'espère, à vos clés qui se sont perdues dans un trou.
J'ai rêvé, mais pas à ça.
Non. Mais c'est parce que c'est vrai.
Oui, oui.
Il nous a raconté l'histoire hier, Mathieu,
oui?
Là, qu'il a perdu ses clés,
oui.
Mais il les a retrouvées.
Bon.
Ils ont travaillé fort, lui et son acolyte, son amoureuse. Alors, Isabelle, on vous entend rire. Comment allez-vous?
Ça va bien.
Ouais.
J'ai fait moi non plus, je ne raconterai pas mes rêves, mais j'ai fait des rêves vraiment cauchemardesques.
Ah ouais, ça c'est moins drôle.
Ouais, mais bon. C'est fun parce que dans ce temps-là, quand on se réveille, on est content d'être réveillé.
Oui, ça vous avez tout à fait raison. On se dit, ce n'était qu'un rêve,
ça
comme le chantait Céline Dion. Et comment conserver vos fruits estivaux? C'est le choix de votre sujet d'aujourd'hui.
Ben oui, c'est ça. Je me suis rendu compte ce matin en allant l'étudier plus en détail que ça datait de 2025, mais je vous en ai pas parlé de cet article-là, à ma connaissance.
Bon, mais c'est toujours d'actualité.
Ben c'est ça, ça change pas. Là. On est en plein dans le temps des petits fruits estivaux et on veut vraiment maximiser leur utilisation, on veut pas les perdre, qu'ils se retrouvent au compost. Alors, on donne des trucs pour pas mal tous les fruits. Et puis, il y a des petites recettes dans l'article, donc on verra si j'ai le temps d'en partager une avec vous.
Ouais, moi, j'en ai un truc. Les manger.
Voilà. Ah oui?
C'est mentionné dans l'article.
Ah oui, c'est vrai? Bon, alors, je suis d'accord avec ce truc-là, mais il y en a bien d'autres, évidemment. Votre petit fruit préféré à vous, Isabelle?
Moi, je ne mange pas beaucoup de fruits. Le petit fruit préféré, les cerises. Oui, mais c'est tellement hors de prix, j'ai pas pu m'en payer cette année.
Oui, puis en plus...
Mais oui, définitivement les cerises.
Je crois qu'elles viennent des États-Unis. On a moins envie d'en manger, mais elles sont tellement bonnes.
Ouais.
Mais très chères. Et vous, Serge, votre fruit préféré? Votre petit fruit préféré?
Moi, je dirais la framboise.
Je suis pas mal dans votre équipe aussi.
Oui.
Mathieu également?
Oui.
Qu'est-ce que c'est bon?
J'aime le et fraises, mais franchement, les framboises, il y a un petit quelque chose.
Ah, les fraises et les framboises.
Du bon vin.
Oui.
Oui, les framboises, j'en ai d'ailleurs mangé hier, comme ça, dans un bol, là, sans rien.
Elles
sont très, très bonnes, les framboises du Québec, évidemment.
Oui.
Bon, Isabelle, donc, vous allez nous parler de comment conserver nos petits fruits, même si c'est un article qui date de l'an dernier, c'est toujours intéressant. On va prendre des notes, évidemment. Et puis, Serge, ça date de longtemps, là, l'enseigne Farine Five Roses.
Oui, l'enseigne de Farine Five Roses, c'est le phare qui
veille
sur moi.
Faut mettre un S.
Oui, Five Roses. si on le prononce en français, c'est parce que ça, c'est...
Farine Five Rose.
C'est la version française.
OK.
Parce que il y a eu, je vais vous conter ça dans l'article, il y a eu trois noms différents, deux anglais puis un français pour se conformer à la charte de la langue française. Alors, c'est considéré comme le phare qui veille sur Montréal, parce qu'on le voit quand on entre à Montréal, on le voit bien en rue.
Ah, oui.
Puis, en même temps, j'ai fouillé un petit peu sur un site de la ville de Montréal, on parle de 19 enseignes. Vraiment, qui représente Montréal. Donc, on va faire un survol. Je n'aurai pas le temps de parler des 19, mais ça va donner une bonne idée.
Parfait. Ben merci. On est content de vous retrouver, Serge.
Merci.
Et aussi, on parlera d'une maladie méconnue, l'encéphalomyélite myalgique, ou communément appelée EM. C'est avec Julie Marcoux qu'on en saura plus, elle qui est présidente de l'ACEM, l'Association québécoise de l'EM.
Ce n'est pas ici, ce n'est pas ailleurs, une chanson de Vanille.
À la une de la presse plus de ce 22 juillet 2026, Haute-Laurentide, désastre redouté dans un havre de paix, une zone de villégiature près du lac Marsan en Rivière-Rouge pourrait être défigurée par deux carrières de pierre aux grandes dames des résidents qui se disent hantés par le projet. Ils en réclament l'annulation. Alors, ces résidents s'opposent vivement à un projet de deux carrières de pierre qui seraient aménagées tout près de leur propriété, dont l'une à seulement 50 mètres de certaines habitations. Ils craignent que le bruit, la poussière, le dynamitage et la circulation de camions détruisent la quiétude des lieux, nuisent à la faune et à la flore, contaminent le lac et les puits artésiens et fassent chuter la valeur de leur propriété. C'est à lire dans la presse un dossier d'Élise Lécaudé et de Charles-William Pelletier. Toujours à la une de la presse plus, nouveau droit de douane. Après le choc, la riposte, Mark Carney dit évaluer toutes les options et Francis Veil signe, j'allais dire, un brûlot. Je déteste Donald Trump. Dans cette chronique, il exprime son profond rejet de Donald Trump et explique que cette aversion s'étend désormais malgré lui aux États-Unis en général. Il raconte qu'il évite les produits américains, refuse de jouer en ligne contre des Américains et n'arrive plus à regarder des films glorifiant les États-Unis. Selon lui, si Donald Trump est responsable de nombreuses décisions qu'il juge néfastes, son mépris de la science, son nationalisme, sa politique commerciale agressive, son enrichissement personnel et ses interventions internationales, il estime aussi que les Américains portent une part de responsabilité en l'ayant élu et en continuant de le soutenir massivement. Francis Veil affirme que l'administration Trump a multiplié les revers et les humiliations sur la scène internationale, notamment face à la Chine, en Iran et lors d'événements publics, tout en aggravant les tensions commerciales avec le Canada par de nouveaux droits de douane. Il reproche également au président de nier les changements climatiques et de favoriser l'industrie pétrolière. C'est à lire aujourd'hui dans la presse plus. Francis Veil, je déteste Donald Trump. Et puis maintenant, à la une, aussi dans la presse, je voulais parler de cette histoire vraiment inquiétante concernant Caroline Belair, une mère de famille de Saint-Jean-sur-Richelieu qui souffre de graves séquelles d'un cancer du sein agressif, qui vit une situation financière très précaire après que Retraite Québec a refusé à deux reprises sa demande de rente d'invalidité du régime de rente du Québec, malgré plusieurs attestations médicales confirmant son incapacité à travailler. Sans revenu depuis 2024, elle craint de ne plus pouvoir payer son loyer dès le mois d'octobre, elle qui est mère monoparentale de deux garçons. À la une de, du Journal de Montréal, des PME sur les nerfs. La nouvelle menace de Trump inquiète. Les tarifs annoncés par Trump ne font pas rire David Doiron, qui est à la une du Journal de Montréal, dont l'entreprise fabrique des câbles. Et femme enceinte en détresse, pas de réponse au 911 pendant 25 minutes. Un couple montréalais déplore d'avoir dû attendre 25 minutes en ligne avant de pouvoir parler à un répartiteur de la centrale 911, après que la femme enceinte eut perdu connaissance en pleine rue. On n'arrivait même pas à avoir la ligne pour expliquer la situation. Ça répondait zéro, raconte Émilie Jacques, encore marquée par cette soirée où son conjoint tentait désespérément d'obtenir du soutien pour lui venir en aide. Le 20 juin dernier, la femme de 25 ans marchait en direction de l'épicerie avec son conjoint dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Elle a trébuché à proximité d'un trou au milieu de l'intersection et s'est violemment retrouvée au sol, tout juste avant de faire un choc vagal. Lorsqu'elle a repris conscience, elle était étendue sur le bord de la chaussée, incapable de comprendre ce qui venait de se produire. À ses côtés, son conjoint, Maxime Gagnon, attendait toujours qu'un répartiteur du 911 décroche. « J'étais sur le bord du chemin, puis on attendait. » Ce qui inquiétait M. Gagnon, c'était que sa conjointe était alors en plein premier trimestre de sa grossesse, une période critique pour le développement du fœtus. Le service de police de la Ville de Montréal, qui assure les appels faits au 911 avant de les transférer au service d'urgence concerné, soutient que la centrale était débordée ce soir-là en raison de fortes pluies qui s'abattaient sur Montréal entre 18h et 19h uniquement. On a dénombré plus de 1150 appels. À titre comparatif, la centrale reçoit habituellement un peu plus de 4000 appels pour l'ensemble de la journée. Et puis, je termine avec la une du Devoir. Le bras de fer tarifaire reprend. Une photo de Mark Carney. Au lendemain de l'annonce de nouveaux tarifs américains, Mark Carney s'est entretenu mardi avec Donald Trump. Nous nous sommes mis d'accord pour intensifier nos négociations pendant les deux prochaines semaines. C'est ce qu'il a déclaré devant les journalistes à son arrivée à son bureau d'Ottawa. Acheter un plex pour le louer, un choix rentable, une hausse des taux d'intérêt, même modeste, peut vite plomber un investissement immobilier. Et neurosciences, un texte vraiment fascinant, comme dirait M. Tisser, de Pauline Gravel, la Madeleine de Proust expliquée par la science, des chercheurs français se sont penchés sur les mécanismes cérébraux à l'origine de la puissance des souvenirs olfactifs, et il y aurait un lien direct avec nos émotions.
La Vallée des réputations, une chanson de Jean Leloup.
Oui, Jean Leloup qui est sorti de sa tanière la semaine dernière à l'occasion de la première de Paradis perdu, dans le cadre de la série Hommage du Cirque du Soleil, présentée une bonne partie de l'été du côté de Trois-Rivières. On s'en va chez Isabelle Falardeau qui nous attend pour parler d'un texte qu'elle a trouvé cette année, mais qui date de l'année dernière, mais qui est toujours d'actualité, qui concerne les fruits d'été.
Exactement. Et si vous l'avez, vous voulez retrouver l'article intégral et y compris toutes les recettes qui l'accompagnent. Le titre, c'est « Comment conserver vos fruits estivaux ?» C'est signé Émilie Lavallée sur le site de Mordu et donc c'était publié le 17 juillet 2025. Et bon, on en parlait là, en introduction, c'est en plein le temps des petits fruits et puis on a tous nos petits fruits préférés. Il y en a qui sont plus difficiles à conserver que d'autres. Alors, on a ici vraiment des petites astuces simples pour en profiter le plus possible et aussi pour éviter le gaspillage. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge.
Ah, je pensais que tu avais une framboise.
Un petit noyau de cerise.
Oui, ça, ça aurait pas été drôle.
On commence par les fraises, bleuets, mûres et cerises. Alors, on nous suggère, pour allonger la durée de vie de ces fruits, de les faire tremper 30 secondes dans un bain d'eau chaude. Donc, là, on mentionne pas si c'est bouillante ou chaude. J'imagine chaude du robinet, ça doit foncer. Mm-hmm. Ça doit faire la job, le travail. Ensuite, on les rince à l'eau froide, évidemment, pour pas qu'ils continuent à se réchauffer, et on les égoutte. Ensuite, on les éponge soigneusement parce que toute trace d'humidité qui resterait va accélérer la détérioration des fruits. On les glisse ensuite, on les conserve plutôt dans un sac à glissière perforée. Ça, c'est une façon poétique de dire un ziploc dans lequel on a fait des trous. Ça, c'est une des options. Sinon, dans leur emballage d'origine, si c'est assez aéré, ou dans un contenant qu'on a tapissé d'essuie-tout qui va absorber l'humidité. L'essentiel, c'est de permettre la circulation de l'air dans le contenant, peu importe celui qu'on a choisi. Idéalement, on les consomme quand même dans les 48 heures et on nous dit qu'après 3 ou 4 jours, mieux vaut les congeler. Pour les cerises, ce qui est assez important, c'est de ne pas enlever les tiges avant de les manger parce que les tiges, ça fait qu'elles s'abîment beaucoup plus vite, en fait, si on les enlève. Et petite anecdote, je ne sais pas si je vous avais déjà raconté que moi, j'ai déjà été eu comme travail de cueillir des cerises.
Non.
À l'étranger, dans un pays où les cerises poussent. Et effectivement, on avait la consigne de les cueillir avec la tige. Si on ne réussissait pas à les cueillir avec la tige, il fallait les manger. En fait, on les mettait à part, puis à notre pause, on mangeait toutes les cerises qu'on n'avait pas réussi à cueillir avec la tige. Et même si on se forçait beaucoup, il nous en restait quand même beaucoup pour se faire.
Mais c'était pas une punition?
Non, c'était pas une punition, non, mais on faisait quand même des efforts. Mais c'est ça pour dire que, parce qu'on nous disait que ça résisterait pas au transport.
Ouais.
Si on avait enlevé les tiges.
Ben, c'est comme les queues de fraises aussi. Là, on les lave avec les queues, sans ça, l'eau pénètre dans le fruit puis ça goûte rien après.
Oui, c'est ça. Il y a toujours des bonnes raisons de laisser la tige sur le fruit. Fruit qui n'a pas de tige, quand on le mange, c'est la framboise, hein, puisque quand on cueille la framboise, on enlève, à moins qu'on ait vraiment manqué notre coup, on enlève vraiment juste la framboise, puis tout le milieu reste sur le plan. Alors, évidemment, les framboises, qui sont votre petit fruit préféré, Hélène, sont
pas juste
faciles.
Moi, Isabelle.
Non, mais on l'a mentionné tout à l'heure.
Oui, Serge et Mathieu aussi sont des friands de framboises.
Ah non, c'est vrai, c'était Serge avec les framboises et vous, c'était pas les...
Oui, on était les trois, on n'a pas été originaux, là. On a dit les trois, on aimait les framboises. C'était notre petit fruit préféré.
Alors, pour tous les trois, on vous recommande, de les manger rapidement, en fait. Le meilleur truc pour conserver les framboises, c'est de les manger.
Ouais.
Elles doivent être manipulées avec soin. On doit absolument les laver seulement au moment de les consommer. Là. Contrairement à la manipulation qu'on a faite pour les autres petits fruits de tout à l'heure, les framboises, il ne faut pas les laver d'avant, sinon elles vont s'effriter ou se briser.
Un lavement rapide aussi, hein?
Oui, c'est ça. Et si on n'a pas le temps de les manger tout de suite, quand on les achète ou quand on les cueille, on les garde dans un frigo, plutôt dans un contenant bien aéré et peu profond pour éviter qu'elles ne s'écrasent. Donc, idéalement, en une seule couche. Là.
Ouais.
Et évidemment, elles sont meilleures quand on les consomme dans les 24 à 48 heures. Au-delà, il vaut encore une fois mieux les congeler. Ensuite, on grossit de fruits. Les pêches, abricots, nectarines, prunes et poires. Alors, celles-là aussi, on les lave juste avant de les manger parce que l'humidité sur la peau va favoriser la moisissure. Et on suggère de les laisser mûrir sur le comptoir. Donc, on ne le réfrigère qu'une fois qu'ils sont mûrs, mais seulement de 24 à 48 heures. Donc, une fois qu'ils sont mûrs, on peut soit les réfrigérer pour cette période-là ou directement les congeler si on veut les garder plus longtemps et qu'on n'a pas l'intention de les consommer tout de suite. Ensuite, les cantaloups, melon miel et melon d'eau, donc les melons d'été.
S'en viennent, c'est à peu près au mois d'août qu'ils sont à leur meilleur.
Oui, ça va être un petit peu plus tard, c'est ça. On les laisse mûrir entiers à température ambiante et une fois qu'ils sont mûrs, encore une fois, si on les laisse entiers, ils vont se conserver une semaine au réfrigérateur. Si on les coupe en deux, et on couvre les deux surfaces exposées avec de la pellicule plastique. On place les moitiés au réfrigérateur et là, on dit de les consommer dans les 3 à 4 jours. Et si on veut les préparer encore plus d'avance là, pour qu'ils soient prêts à manger, donc les couper en petits morceaux, ben là, on les place dans un contenant hermétique, encore une fois au frigo, et on les mange dans les 24 à 48 heures à ce moment-là. Ensuite, on termine l'article avec les championnes de la longévité. Quelles sont ces championnes d'après vous?
Répétez la question, s'il vous plaît.
Les championnes de la longévité, donc les fruits qui sont les plus faciles à conserver longtemps.
Bon, les fruits d'automne, la pomme, j'imagine?
Exactement, la pomme est une championne de la longévité. On peut la garder à température ambiante jusqu'à une semaine. Et au frigo, on nous dit de 4 à 6 semaines. Ah. Moi, j'ai déjà gardé des pommes plus longtemps que ça.
Oui, puis elles étaient bonnes, elles étaient mangeables.
Oui, c'est ça. En fait, moi, ce que je fais là, quand c'est la saison, quand je vais aux pommes, je ne vais pas à chaque année, mais quand je vais aux pommes, je mets toute ma quantité de pommes au frigo, puis j'en sors 2-3 à la fois sur le comptoir pour qu'elles soient à la bonne température, pour être prêtes à manger. Mais ce qui est très, très important avec les pommes, c'est de les conserver à l'écart des autres fruits parce qu'elles émettent de l'éthylène. Et ça, c'est un gaz qui accélère la maturation. Je ne sais pas si vous avez déjà donné mon truc pour faire mûrir les avocats. C'est de les conserver justement avec les bananes qui sont en train de mûrir parce que on augmente la quantité d'éthylène. L'avocat, lui aussi, émet sa propre éthylène, mais évidemment, quand on multiplie.
Mais les goûts ne se mêlent pas?
Non, pas du tout. Non. En tout cas, pas pour les avocats et les bananes, mais c'est ça. Donc, ça fonctionne pour faire mûrir, mais si on ne veut pas faire mûrir nos autres fruits, évidemment, il ne faut pas mettre les pommes à côté. Et quelques petites astuces supplémentaires, donc en conclusion de l'article, si vos fruits sont très mûrs, évidemment, congelez-les tout de suite pour faire des smoothies ou des compotes que vous pourrez faire plus tard. Avant de les congeler, on doit bien les laver, les sécher et les étaler sur une plaque pour les faire congeler à plat sur une couche avant de les mettre dans un sac de congélation ou dans un contenant. Les fruits congelés peuvent généralement être conservés de 8 à 12 mois. Donc, ça augmente énormément leur durée de conservation. Mais on suggère toujours, et là, on revient encore à la meilleure stratégie, c'est de les manger. Mais c'est toujours mieux d'acheter des petites quantités de fruits, de les laisser mûrir sur le comptoir et de les consommer rapidement parce que en les laissant sur le comptoir, ça nous permet de les voir et donc ne pas oublier de les manger. Et moi, c'est effectivement une stratégie que j'utilise. Et puis, normalement, les fruits frais locaux qu'on trouve au marché sont cueillis à maturité. Donc, encore une fois, selon nous, on suggère de les consommer rapidement pour en profiter au maximum.
Oui, profitons-en au maximum pendant que ça passe. Merci, exactement. Isabelle. Well, it's time to begin as the summer sets in, that's the scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said, it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said, it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the summer go on and on. Well, they tried to stay in from the cold and the wind, making love and making their dinner, only to find out the love that they grew in the summer froze. February, April said, don't be fooled by that summer again. February, April said, that half of the year where we'll never be friends. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the winter go on and on.
Gatekeeper, une chanson de Feist.
Il y a des fruits d'été, il y a des chansons d'été comme celle-là, l'adorable Feist dans Gatekeeper, un de ses premiers succès. Merci d'écouter au quotidien, on est ensemble jusqu'à 11h. À venir, la chronique de Serge Bradet. Nous aurons aussi la chronique de Julien Caillouette qui nous donne des nouvelles du Canada francophone, lui qui est rédacteur en chef chez Franco-Presse. Et puis, on n'a pas le temps vraiment parce que je voulais vous demander, j'étais inspirée par la Madeleine de Proust expliquée par la science. Ah ouais. Quelle est votre Madeleine de Proust, l'odeur qui vous rappelle votre enfance en 5 secondes?
Moi, mon Dieu, une crêpe.
Mathieu, on y revient.
Vous écoutez au quotidien avec Hélène Denis.
Bien oui, le temps n'est pas élastique, hein, je croyais au miracle en vous posant la question, quelle est votre Madeleine de Proust? Serge, vous avez répondu rapidement, mais vous avez répondu,
oui, mm-hmm.
les crêpes de vos grands-mères.
Oui.
Ça vous ramène à votre enfance.
Oui, c'était deux sortes de crêpes différentes qu'elle faisait.
Ouais.
Ma grand-mère Bradet, c'était des crêpes mince-mince. Ma grand-mère Dinelle, c'était une crêpe épaisse là, qui gonflait.
Ouais, ouais,
elle faisait cuire ça dans à peu près ça de...
De Saint-Doux,
un pouce de gras. De gras,
oh.
Qu'elle gardait de foie en foie, là, tu sais.
Oui, 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 elle récupérait.
Oui,
est-ce qu'il y avait du sirop d'érable pour accompagner ces crêpes-là?
Ben oui, évidemment.
Ouais. Vous, Mathieu, là, vous étiez pris dans votre console?
ça se mange pas, mais c'est le lit, là.
OK, ça, c'est... Ben, c'est une odeur.
Oui, c'est une odeur.
Ouais. Voilà. Ah oui, le... Mais si on parle de quelque chose... Non, c'est vrai, ça peut être une Madeleine de Proust.
Je pourrais en manger, puis je ferai le test. Je vous le dirai au printemps prochain.
Je ne pense pas que ça soit une fleur qui se mange.
Non, ça se mange. De la limonade au lilas, c'est délicieux.
Ah bon, alors c'est correct. Mais c'est pas obligé d'être comestible. Alors, on y va avec le lilas, les crêpes. Et vous, Isabelle?
Ben moi, j'étais dans la nourriture, alors j'ai pensé, la première chose qui m'est passée par la tête, c'est bien ordinaire, mais c'est la soupe Lipton, parce que c'est le fameux moment où j'avais réussi à convaincre ma mère que j'étais trop malade pour aller à l'école, puis qu'elle me faisait de la soupe Lipton, ouais. C'est pas, c'est des moments magiques pour moi.
Ah oui, je comprends. Mais c'est drôle parce que moi, j'avais écrit la soupe de ma mère, parce que ma mère fait une soupe à tous les jours, puis c'est toujours différent, mais la soupe de ma mère, ça sent la soupe de ma mère.
Ouais, ouais.
Et quand je pense à mon père, vu qu'il était agriculteur, son foin, le foin qu'il coupait, puis l'Aquavelva qui portait dans les années 70. On pourrait en parler longtemps. Hein. Ça fait toujours plaisir d'être nostalgique. Ce n'est pas la nostalgie triste, c'est la nostalgie heureuse. Mais parlant de nostalgie, l'enseigne Farine Five Rose avec vous, Serge.
Oui.
Le phare qui veille sur Montréal.
Exactement. Alors, c'est un article de la Presse Plus du 4 juillet, un article d'Émilie Côté. Alors, l'enseigne de Farine Five Rose, le phare qui veille sur Montréal. Alors que la croix du Mont-Royal s'éteindra au cours de la prochaine année pour des travaux, comme on en a parlé il y a deux, trois semaines, Montréal aura toujours son phare à l'entrée du centre-ville, l'enseigne de Farine Five Rose, qui veille sur la métropole en haut d'un bâtiment de 10 étages du complexe de l'ancienne Ogilvy Flour Mills. Pour bien des Montréalais, l'enseigne incarne l'image réconfortante de la maison, que ce soit au volant de sa voiture sur l'autoroute Bonaventure ou dans le trajet du réseau express métropolitain, le REM, entre Brossard et la gare centrale. Une enseigne comme il ne s'en fait plus, semble-t-il. Des néons sur une structure d'acier, c'est la dernière installation de ce type-là, fait valoir Taïka Bayarjon, directrice adjointe aux politiques chez Héritage Montréal. C'est un des derniers vestiges d'une période où il y en avait beaucoup, poursuit Matt Sauer, professeur retraité de l'Université Concordia, qui a fondé Projet d'enseigne de Montréal, et celle de Farine Five Rose a changé de nom trois fois, mentionne-t-il.
Ah oui?
Alors oui, voilà l'évolution, comment ça s'est passé. En 1948, à son installation, l'enseigne affichait Farine Ogilvy Flour, puis celui ensuite de Farine Five Rose Flour à partir de 1954 et quand l'entreprise a été rachetée et en 1977, le mot anglais flour a été retiré en vertu de la charte de la langue française, donc c'est devenu Farine Five Rose, point.
En Mais il 2000... n'y a pas de point, par exemple.
Non. point final, c'est devenu ça. Bon. En 2006, quand l'entreprise Archer Daniels Midland, ADM, a vendu la marque Five Rose au géant Smucker's, l'enseigne s'est éteinte.
Ah oui.
Alors voilà.
Ah, il y a 20 ans de ça.
Oui, oui. Alors, évidemment, ça a désolé beaucoup de gens. Alors, des citoyens, des organismes ont milité pour sa sauvegarde. Puis, il a suffi d'un appel d'Héritage Montréal au patron de Smuckers pour les convaincre de garder l'icône de Montréal illuminée et même de la restaurer. Il faut quand même souligner ça. Il y a juste un appel, puis ils ont dit, écoutez, on comprend votre revendication,
désarroi.
Votre demande.
Oui, oui, oui. Oui.
Alors, c'est une histoire porteuse. Pas tous les gens sont l'ennemi du patrimoine, a souligné Taïka Baillargeon.
Tant mieux.
Oui. Et nous continuons d'assurer la maintenance de l'enseigne, affirme Adam Zitney, qui est vice-président au marketing de Smucker Foods of Canada. Seule l'enseigne appartient à Smuckers. L'édifice est toujours la propriété d'ADM et sa minoterie fonctionne à plein régime, si bien qu'on y transforme, tenez-vous bien, de blé en farine, 70 % de sel qui est requise par l'industrie alimentaire québécoise. C'est énorme.
Énorme.
Ça, j'ai appris ça là, en lisant.
On apprend plein de choses.
Oui. C'est un des moulins les plus performants et modernes du groupe ADM en Amérique du Nord, mentionne Hélène Doyon, urbaniste conseil pour ADM. L'entreprise souhaite demeurer aux abords du canal de la Chine à long terme. Dans une métropole, de telles usines situées près du centre-ville sont de plus en plus rares. Son secteur, celui de Bridge Bonaventure, est en redéveloppement et, lors des consultations publiques, des organismes communautaires ont dit croire en une cohabitation résidentielle et industrielle. Depuis l'an dernier, l'emblématique enseigne n'a pas qu'une valeur historique, elle s'inscrit activement dans son époque. Des soirs, avant et le jour de certains matchs à domicile, deux mots de l'enseigne Five Rose s'éteignent pour laisser place à Rose, qui est le nom de...
Ah oui, une équipe de hockey féminine.
Exactement. J'ai eu une vision, raconte la copropriétaire de l'équipe et entrepreneur Isabelle Chevalier. C'est en hauteur, ça flash. Je trouvais ça fort d'incarner l'idée que les Roses débarquent en ville et de s'inscrire autant dans la culture montréalaise. Quand Isabelle Chevalier et son équipe cherchaient un nom pour la future première équipe de soccer féminine professionnelle de Montréal, elle souhaitait s'inspirer d'un symbole de la métropole. « Je suis montréalaise et nous voulions être enracinés dans la ville », raconte-t-elle. Si le mot « rose » se trouve dans la plus emblématique enseigne lumineuse de Montréal, la rose rouge du Lancastre figure aussi dans le drapeau de la ville pour symboliser les Anglais aux côtés des Français, la fleur de lys, des Irlandais, le trèfle vert, des Écossais, chardon pourpre, et des peuples autochtones, le pain blanc. Même la typographie de l'enseigne de Farine Five Rose a inspiré le logo des roses. Pour Isabelle Chevalier, le partenariat avec Smuckers est un rêve devenu réalité. C'est une façon de revaloriser l'enseigne historique dans le monde de 2026, où le sport féminin se taille une place.
Wow! C'est réfléchi, tout ça, là.
Oui, ben oui, oui. Mm-hmm. Cette année, le rose de l'enseigne a clignoté pour le match d'ouverture et le fera pendant les séries. C'est aussi ce qui ressort d'une œuvre unique de l'artiste Nicolas Ruel, qu'Isabelle Chevalier a reçue en cadeau pour son dernier anniversaire en mai dernier.
Ah, oui. Quelle belle histoire. Oui. Et Farine Five Rose, c'est très beau, hein? Les lettres sont rouges, encadrées de
Et c'est
jaune
monté
beurre.
Sur une structure métallique, hein? Ça va très, très haut. C'est vraiment très haut. T'sais. Quand on regarde, vous ne verrez pas si vous descendez l'image, là, mais en dessous, c'est vraiment, tout, on le voit bien.
De toute beauté.
Ouais, ouais, ouais.
Ouais. Ça nous rassure aussi quand on arrive en ville et qu'on voit cette enseigne.
Ouais. Dans l'arrondissement de Ville-Marie, une vingtaine d'enseignes commerciales d'intérêt patrimonial sont protégées depuis 2020 dans la foulée de la sauvegarde de celle du magasin Archambault de la rue Sainte-Catherine, dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Et bonne nouvelle, Héritage Montréal et le projet d'enseigne de Montréal ont fait équipe pour sauver 4 anciennes de l'ancien magasin L'Abbé du centre-ville. Pas une, mais 4 enseignes.
4 enseignes.
Oui, alors je ne sais pas si ça va être dans le nouvel édifice, la nouvelle structure, que le nouveau commerce.
À suivre.
Oui. L'une d'entre elles se retrouvera au musée du NEM, le Centre des mémoires montréalaises. Les enseignes racontent une histoire, s'émeut Matt Sore. Tu sais, quand tu vois celle de Five Rose, que tu rentres à la maison, illustre-t-il. Cela fait partie du paysage au même titre que le stade olympique ou la ronde. C'est la ville, c'est notre ville. Alors voilà, c'était pour Five Rose. Maintenant,
Il n'y avait pas juste Five Rose, il y avait les 4 enseignes aussi.
Oui, c'est ça, oui. Là, en fait, il y a un site de la ville de Montréal qui a été mis à jour le 5 juin dernier. Et il y a 19 enceintes commerciales d'intérêt patrimonial de Ville-Marie qui ont été reconnues par l'arrondissement en novembre 2020 afin de mieux protéger le patrimoine paysager. Et en tout, on en a recensé 200 enseignes, mais on a considéré qu'il y en avait 19 qui avaient un intérêt patrimonial, qui identifiaient Montréal. Et concrètement, le retrait ou la transformation d'enseignes d'intérêt et de toute autre enseigne située sur un immeuble comportant une enseigne d'intérêt devra désormais être approuvé par l'arrondissement. Alors, on surveille ça de près. Ce serait dommage de perdre ça.
C'est du sérieux, bien oui.
Oui, oui, oui.
Il y a, ça définit, bon, ça oui, caractérise oui, oui, oui. une ville. Un
Alors,
endroit.
Vous avez une qui est très, vraiment très, très impressionnante, celle de la Guaranteed Pure Milk.
Ah oui, la pinte de lait.
La pinte de
oui.
lait, oui. C'est un château d'eau. C'est au 1025 que Lucien
une
Lallier...
Une pinte d'eau.
Une pinte d'eau, oui. 1025 Lucien Lallier, et c'est la propriété de Guaranteed Pure Milk, et a été construite en, érigée en 1930. Elle est haute de 10 mètres, poids de 6 tonnes. Ouh! Et elle contient combien de litres de liquide, vous diriez?
Oh, plus qu'un 2 litres, en tout cas.
Oui, oui, oui. Un bon 250 000 oh. litres. Oui, oui, oui.
Et on la restaure à l'occasion, hein, parce qu'il me semble qu'elle est portée à rouiller.
Oui, déjà... oui, oui, non, ils en prennent soin. Grâce à une campagne menée par Héritage Montréal, nommée l'opération « Sauvons la pinte », eh bien, l'enseigne commerciale a bénéficié d'une restauration en 2011.
Ah oui,
ah, c'est ça.
Il y a 15 ans.
Oui, puis là, on l'entretient. Apprécié des photographes professionnels, amateurs et amatrices, la pinte de lait est souvent utilisée à des fins artistiques pour représenter Montréal. Une autre enseigne, le Ritz-Carlton. Oh là là, là on va
sur
dans
Sherbrooke.
Le... Dans le chic, là, le grand, grand chic. Fondé en 1896 par l'hôtelier suisse César, surnommé le roi des hôteliers, l'hôtelier des rois, ou l'hôtelier des rois aussi, le premier établissement de la chaîne hôtelière Ritz-Carlton a été construit en 1898 à la place Vendôme à Paris, et celui de Montréal a été inauguré en 1912. Sur Sherbrooke West, dans un secteur occupé par des galeries d'art et des boutiques de mode de rue, puis évidemment dans le fameux Golden Square Mile.
Où là, j'arrive les... pas. Qu'est-ce qu'on voit comme enseigne?
Ah, ben c'est ça ici, celle-là.
Ah oui,
oui, le lion, oui, oui, oui.
D'accord, le lion, mais oui, aussi oui. On, les lettres, là, Ritz-Carlton, oui, je pense oui, qu'il y avait oui. un symbole, mais il y a le symbole du lion.
Oui, en fait, comment on décrit ça? Disposé à chaque extrémité d'une imposante marquise de fer en fer forgé de 75 pieds de longueur, les enseignes du Ritz-Carlton arborent depuis 1978 un logo avec un lion qui diffère des autres hôtels de la chaîne.
Ah bon?
Qui représente un lion pour un bailleur de fonds et une couronne pour le sceau royal britannique, évidemment.
Ouais.
Évidemment, évidemment. Mm-hmm. Vous avez ensuite le Old Renfrew. Le Old Renfrew, le grand magasin, bon, oui. L'entreprise a été fondée en 1837 à Québec par William Anderson, un marchand irlandais. Et c'est un des plus anciens commerces de détail encore en activité. Et le magasin de la rue Sherbrooke-Ouest a ouvert en 1946 dans un secteur où l'on retrouve historiquement de nombreux grands magasins. Et inspiré du style art déco du bâtiment, l'enseigne a été installée en 1948 au-dessus de l'entrée principale du magasin de la rue Sherbrooke.
Vous avez pris ça où, ces informations?
C'est le site de la Ville de Montréal qui s'appelle Image. C'est écrit tellement petit, là, même mes lunettes. Image, voyons.
Bon, je ne voulais pas vous mettre dans l'embarras, là. C'est pas grave.
L'enseigne de les enseignes marquantes de Montréal, okay. Sur le site de Montréal.
Simplement.
Oui. Le CN, maintenant, le Canadien national.
Oui.
Fondé en 1919 à partir de plusieurs compagnies ferroviaires existantes, le CN est l'une des deux grandes compagnies de chemin de fer du Canada avec le Canadien Pacifique. Et construit en 1961, le bâtiment actuel de son siège social fait partie d'un vaste complexe aménagé par le CN, la gare centrale, l'hôtel Reine-Élisabeth, dans un secteur marquant de l'histoire ferroviaire au Canada, à proximité de l'ancien siège social du Canadien Pacifique, établi alors dans la gare Windsor. Bon, dans les autres enseignes, je passe rapidement, la joaillerie Burks.
Mmh.
Ah oui, ça, c'était quelque
sur
chose.
Sur Sainte-Catherine.
Oui. Ensuite, vous avez, sur la rue Notre-Dame-Ouest, le photoservice.
Ah, je ne connais pas.
Oui. Et je suis allé là, elle m'a donné avec un ami qui avait besoin de quelque chose, là, qui voulait faire des photos. Puis c'est vraiment impressionnant, là. C'est sur la rue Notre-Dame-Ouest. C'est une entreprise familiale fondée en 1937. Vous avez le sur la rue La Gauchetière Ouest, le Wings, le Noy Wings Limité.
Oui, un restaurant?
Non, c'est il fabrique des nouilles.
OK.
Ainsi que les biscuits, les cookies, là, un petit cookie chinois.
Peut-être juste les mentionner en terminant, parce que là, il ne reste plus de temps.
L'enseigne d'Hydro-Québec, l'horloge de la presse, là, dans l'édifice, le chapelier Henri-Henri.
Oui, les qui chapeaux, existe toujours.
Ben oui, qui existe toujours. Alors, et voilà.
Wow, ben merci. Vous nous avez rappelé de beaux souvenirs, puis fait vivre des belles choses.
Oui, oui, oui.
Ainsi qu'Isabelle. Mm-hmm. À la semaine prochaine.
Bye.
Au revoir.
C'est l'heure de prendre des nouvelles du Canada francophone en compagnie de Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour, Julien.
Bonjour, Hélène.
Est-ce que vous êtes toujours dans la fumée? Parce qu'il y a pas mal de feux là, qui font des ravages en Ontario.
Oui, on l'était la semaine dernière, à peu près en même temps que Toronto avait la pire qualité d'air au monde. On était aussi dans la fumée à Sudbury, mais ça a toujours été un peu moins pire parce que le vent allait plus au sud. Puis là, je vous dirais, depuis la fin de semaine, c'est pas mal calmé. La pluie a aidé. Ici, il n'y a plus toute la journée hier, donc on n'a pas de fumée. Mais les feux ont toujours l'air de faire rage. Là. Les dernières données, c'est 1800 personnes qui ont été évacuées de cette région-là, puis le combat continue, puis là, on sait que Doug Ford est à la conférence des premiers ministres des provinces, puis il veut en parler d'une gestion nationale des incendies de forêt, puis autre détail aussi qui est bon à savoir, c'est que bon, c'est surtout des Premières Nations qui sont touchées par les évacuations parce que les feux sont dans des coins reculés où sont ces Premières Nations-là. Puis quand Doug Ford était là à Thunder Bay il y a quelques jours pour faire le point sur les incendies, il n'a pas invité aucun chef des Premières Nations à discuter ou à venir avec lui à la conférence de presse et ça l'a choqué un peu les Autochtones.
On les comprend bien. Il faudrait arrêter aussi de se mettre la tête dans le sable concernant les changements climatiques. Alors, oui. Poursuivons maintenant avec une nouvelle tirée de Franco-Presse, légère prédominance de l'anglais au quotidien dans les foyers bilingues.
C'est Statistique Canada qui a publié une nouvelle analyse du recensement de 2021 et de l'enquête sur les populations de langue officielle en milieu minoritaire qui était faite en 2022. Donc, ça a été publié la semaine dernière. Puis là-dedans, on s'attarde aux gens qui disent utiliser les deux langues officielles à la maison afin de mieux comprendre c'est quoi leurs habitudes d'utilisation des langues. Est-ce qu'ils en utilisent une plus que l'autre, ce genre de choses-là. Puis bon, là-dedans, on analyse plusieurs choses. Mais ce que j'ai retenu, un des points principaux, c'est que les adultes qui ont quand même la langue française comme langue maternelle et qui résident hors Québec, puis qui utilisent les deux langues au moins régulièrement à la maison, disent en plus grande majorité parler plus souvent, avoir plus de chances de parler quotidiennement en anglais qu'en français. Il n'y a pas une énorme différence, c'est 94 % de ces francophones-là qui disent qu'ils sont plus susceptibles d'utiliser l'anglais tous les jours, alors que c'est 83 % qui disent être plus susceptibles d'utiliser le français à tous les jours. Il y a aussi une bonne nouvelle en arrière de ces données-là, même si on utilise les deux langues à la maison, les parents francophones parlent quand même plus fréquemment en français à leurs enfants. C'est 94 % d'entre eux qui disent parler en français à leurs enfants, alors qu'il y en a 66 % qui disent parler en anglais avec leurs enfants. Là, vous vous rendez compte que 94 et 66, ça fait plus que 100 %. Oui. Mais ce que ça veut dire, c'est ça veut dire qu'il y en a qui parlent les deux langues à leurs enfants. Ils parlent en français et en anglais à des fréquences variables.
Une ville située dans le centre de l'Ontario a reçu plusieurs offres pour sa statue de Champlain, c'est dans l'Express.
Oui, c'est une saga qui se déroule depuis quelques semaines, là, puis je n'en avais pas encore parlé parce que j'attendais de voir ce qui allait se passer. Mais donc, c'est la ville d'Orillia, qui est sur le bord du lac Simcoe, c'est au centre de l'Ontario, au nord de Toronto, à quelques, une heure ou deux de route. Donc, Orillia avait une statue de Samuel de Champlain. Je vous dis pourquoi, récit historique, pourquoi il y a une statue de Champlain à cet endroit-là, c'est qu'après avoir fondé Québec, Champlain est parti avec des explorateurs, des missionnaires, dont Étienne Brûlé, qui est un nom bien connu ici en Ontario français, pour remonter le Saint-Laurent, puis un peu les Grands Lacs, puis il s'est rendu jusque dans les environs de la baie Georgienne. Il aurait passé l'hiver 1616 dans les alentours de ce qui est aujourd'hui Orillia, puis donc Orillia avait une statue de Champlain pour marquer ce fait historique. La statue avait été enlevée en 2017 pour être restaurée. Puis l'inconfort de la Première Nation de Rama dans la région était connu par rapport à la statue. C'est que les Autochtones sont surtout opposés à l'image de la colonisation que représente Champlain, puis à son rôle à l'arrivée des missionnaires dans la région et quelques souffrances qui en ont suivi. Le conseil municipal avait un plan pour réinstaller la statue en modifiant un peu sa disposition parce que oui, il y a Champlain, mais il y a d'autres éléments autour du socle dont il y avait une image d'un Autochtone au pied d'un missionnaire puis d'un trappeur. Puis c'était un des aspects qui n'aimait pas aussi. Donc, on avait l'intention de modifier la statue, mais elle a été réinstallée sans faire les modifications. On allait les faire plus tard. Fait que la statue a été rapidement vandalisée après sa réinstallation. Ce que la ville a décidé de faire, donc on a voté pour l'enlever à nouveau en attendant de trouver une solution plus permanente. Il y a plusieurs personnes en Ontario, dont des anciens ministres et même le ministre actuel du patrimoine, Mark Miller, qui disent qu'eux préféraient que la statue reste en Ontario. Les conseillers municipaux d'Orillia, eux, demandent de mieux consulter, de prendre en compte les doléances des Premières Nations. Puis, ce que nous apprend l'Express, finalement, c'est qu'il y a eu, au cours des dernières semaines, environ 30 groupes et municipalités, dont quelques-unes au Québec, qui ont offert à Orillia de récupérer la statue. Dans les villes au Québec, on dit qu'il y a, entre autres, la ville de Champlain à côté de Trois-Rivières, puis Lévis, qui ont contacté le maire d'Orillia. Pour l'instant, il n'y a pas de décision qui a été prise, là, mais le maire préférerait quand même garder la statue dans la ville.
Bon. Alors, Samuel de Champlain fait des vagues par les temps qui courent. Là. Il ne fait pas l'unanimité. Oui. Il y en a qui le veulent, il y en a qui le veulent pas. Des anglophones qui persévèrent dans le français, c'est l'Eau vive qui nous présente ces anglophones.
Oui, le journal nous apprend l'existence d'un groupe qui s'appelle Inspiration Bilingue. C'est un groupe qui est composé principalement d'anglophones de l'Ouest canadien, même il y a un Américain dans le groupe, puis qui se réunissent pour pratiquer leur français quelques fois par mois. Il y a plusieurs anciens membres de Toastmasters dans ce groupe-là. Donc, le format Toastmasters les a inspirés. Ils ont gardé un peu cette structure-là dans leur groupe. Et donc, ils présentent des discours et font de la rétroaction sur leur performance pour tenter de progresser et d'améliorer leur français. Il y a plusieurs raisons pourquoi ces gens-là participent. Le journal nous présente, entre autres, Richard Kirbes, qui, lui, dit avoir aimé le français dès qu'il a commencé à l'apprendre au secondaire, mais que maintenant, il y a une motivation de plus parce que sa femme est francophone puis il veut parler en français avec elle. Sa femme, Evelyne, participe aussi au groupe, puis pour elle, ben, c'est une occasion... elle n'a pas souvent l'occasion de parler en français dans la vie. Elle s'informe puis elle lit en français, mais parler, c'est plus rare en Saskatchewan, donc c'est une occasion de plus. Puis, pour un autre membre à qui ils ont parlé, Eric Woodsworth, ben, c'est juste un désir de mieux comprendre la communauté francophone et en Saskatchewan et de l'appuyer. Donc, vous voyez, on a des alliés pour la francophonie partout au pays, puis on a toutes sortes de bonnes raisons de continuer à parler en français.
Mais oui, c'est très encourageant, ça. C'est un groupe qui s'appelle Inspiration Bilingue, c'est comme ça qu'il s'appelle.
Exactement.
On les salue. Et on termine avec une question. Est-ce possible de vivre sans voiture au Yukon?
Je vous donne la réponse tout de suite pour ne pas vous faire languir, mais c'est pas possible. Ben non, en fait, c'est possible, mais c'est une option marginale parce qu'elle demande beaucoup d'organisation et de solidarité et d'adaptation. Ce qu'on nous donne comme exemple, entre autres, c'est un monsieur, un mineur qui est à la retraite, qui lui en avait assez de payer pour une voiture, les assurances puis l'essence. Donc, il s'est débarrassé de sa voiture, s'est installé dans une plus petite habitation qui est un peu plus à l'extérieur de la capitale Whitehorse. Puis, il fait des contrats de temps en temps. Donc, pour voyager, il fait surtout du pouce. Puis, ça a l'air de bien fonctionner. Ça peut être un peu plus difficile pour les enfants qui, eux, ont plus de limites pour se déplacer. On parle surtout des enfants qui vivent dans les petites localités autour de Whitehorse, mais qui vont à l'école à Whitehorse. On dit qu'il y en a qui peuvent faire jusqu'à une heure d'autobus le matin et le soir. Et quand ces enfants-là se font des amis à l'école, qui demeurent dans d'autres localités ou à Whitehorse, mais là, ça devient plus compliqué de les voir la fin de semaine ou le soir. Ça demande une bonne collaboration des parents. Un peu plus loin, à Ames Junction, qui est environ à 2 heures de route à l'ouest de Whitehorse, il y a Isabelle Piché qui a créé un service de navette vers la capitale parce qu'elle a entendu des touristes dire qu'ils avaient dû dépenser 400 $ pour faire le trajet entre Whitehorse et Ames Junction. Donc, 400 $ pour 200 kilomètres, c'est un peu cher le kilomètre.
Un peu beaucoup,
oui. Elle a dit que son service est très occupé quand même puis apprécié. Puis, il y a même un couple qui a décidé d'emménager à Ames Junction sans voiture, parce qu'ils savaient qu'elle allait pouvoir profiter du service pour aller à la capitale. Donc, on peut se douter aussi que c'est encore plus compliqué l'hiver sans voiture, et c'est le cas, mais ce qu'on nous indique aussi dans l'article, c'est que quand le printemps arrive, Whitehorse encourage quand même le déplacement actif. Il y a de la place pour les vélos et la marche quand même, et même qu'on nous apprend que à Whitehorse, il y a 33,9 km de sentiers par 1000 habitants, tandis que dans la capitale du Yukon seulement, tandis que la moyenne au Canada, c'est 0,9 km par 1000 habitants. Donc, ils sont bien desservis de ce côté-là s'ils veulent bien faire l'effort.
En effet. Merci beaucoup, Julien, pour tout cela et on se retrouve la semaine prochaine.
Mais avec plaisir.
Vous écoutez au quotidien Avenir, une entrevue pour parler d'une maladie méconnue, l'encéphalomyélite myalgique. On en parle avec Julie Marcoux, qui en est atteinte.
Vous écoutez au quotidien avec Hélène Denis.
Elle marche seule dans la nuit, sous un ciel de minuit, en suivant les lampadaires qui s'allument dans la rue. Tranquillement, elle prend le même chemin qu'avant, des allées qui serpentent jusqu'à l'Odéon. Et dans les vitrines en face, elle se voit passer. Dans les yeux de Marie, on voit la vie qui passe le jour plus sombre que la nuit. Elle n'attend que lui. Et les écrans de télé
Andrea Lindsay, les yeux de Marie.
On joint Julie Marcoux, qui est présidente de l'ACEM, l'ACEM pour l'Association québécoise de l'encéphalomyélite myalgique. Bonjour, Madame Marcoux.
Bonjour.
Est-ce qu'on s'appelle par nos prénoms?
Absolument.
Allons-y donc. Alors, Julie, allons-y d'abord par l'explication de, je ne sais pas si c'est une maladie, une condition. Qu'est-ce que c'est l'encéphalomyélite myalgique? D'abord, c'est compliqué à prononcer, là. J'ai fait mes exercices de diction.
Oui, vous les avez très bien fait, d'ailleurs. Nous, entre nous, on utilise l'acronyme EM, justement, pour que ce soit plus facile, encéphalomyélite myalgique.
Je retiens cela.
Oui, ça va faciliter la tâche. C'est une maladie complexe, chronique, multisystémique, invalidante. C'est comme ça qu'on la décrit rapidement. Si on veut donner un peu une idée aux gens à quoi ça ressemble, cette maladie-là, c'est il y a des symptômes plus évidents, je dirais,
oui.
qu'on décrit de façon plus régulière, mais parce qu'il peut y avoir au-dessus de 200 symptômes possibles pour la maladie, qui est une maladie multisystémique. Mais on parle d'un épuisement constant. On parle d'une réduction des capacités de minimalement 50% des fonctions, mais ça peut aller jusqu'à 95% de réduction des fonctions, selon le degré de sévérité de l'atteinte.
Ça s'apparente à la fibromyalgie, on dirait?
La fibromyalgie, ça peut être une comorbidité, puis il y a beaucoup de symptômes similaires. Mais en général, la fibromyalgie, si je me trompe pas, vient pas avec une réduction nécessairement des fonctions. Nous, ce qui arrive, c'est que l'épuisement est dû au fait qu'on ne régénère pas l'énergie dépensée. Donc, c'est un problème au l'énergie cellulaire là, qu'on dépense quand on agit, quand on parle, quand on bouge, quand on digère, quand on... Oui, toute cette énergie qui est dépensée quand on vit est mal régénérée. On ne comprend pas pourquoi encore. Donc ça, c'est une grande partie. Ensuite, on parle de troubles cognitifs, on parle de douleurs, puis on va parler de toutes sortes de comorbidités qui vont venir avec la maladie, là, qui une des comorbidités les plus fréquentes, ça va être l'intolérance orthostatique. Là.
L'intolérance?
Donc, orthostatique, donc qui est une forme de dysautonomie, qui est qui fait que c'est difficile de se tenir assis ou debout là. Il y a une intolérance à la station assise ou debout.
Donc c'est une maladie très invalidante là. Est-ce que on est avec le M?
Non, c'est une maladie qui, j'allais dire post-virale, mais c'est plus l'utilisation du terme. C'est une maladie chronique associée à une infection.
OK.
Donc, qui se déclenche après une infection.
Infection, comme par exemple...
Infection en tout genre. Donc là, on vient de passer à travers une pandémie, COVID-19, infection, possibilité de déclencher le M post-viral. Mais ça peut être une grippe, ça peut être un rhume, ça peut être une infection bactérienne. Ça peut être toutes sortes de choses, en fait.
Alors, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge?
Qui
peut avoir cette maladie-là à cause d'une infection?
Exactement. Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge. Donc là, post-COVID, on a des enfants actuellement qui attrapent la COVID, puis qui tombent malades, puis qui perdent leur capacité de fonctionner, d'aller à l'école, de développer leur vie comme tout enfant le ferait. Là. Donc oui, ça arrive à n'importe quel âge, à n'importe qui. C'est pas une maladie très discriminante, mettons.
Non.
Sauf que on sait qu'il y a un pourcentage plus élevé de femmes qui le développent, mais on sait pas pourquoi.
Vous avez dit que c'était une maladie chronique, donc c'est pas une maladie qui se guérit.
Non, c'est pas une maladie qui se guérit. Il y a très petit pourcentage de personnes, quand ils ou elles le développent, qui vont en rémission, mais on parle de pas plus de 5%. Puis quand on parle pas de guérison, on parle de rémission. On voit des personnes qui ont une rémission qui vont avoir comme une qualité de vie, un retour normal à la vie, mais qui vont, après une infection, tout d'un coup retomber.
OK. Alors, il faut faire vraiment attention là, de pas justement avoir d'autres infections là, pour prolonger cette rémission le plus longtemps possible.
Oui. Puis, je pense que c'est un peu hors de notre contrôle si on va rester en rémission ou non, là. C'est sûr qu'on peut se protéger des infections le plus possible, ça aide.
Oui.
Mais
il n'y a pas juste ça.
Ben, c'est-à-dire que je ne saurais pas vous en dire plus à ce niveau-là, parce qu'il y a tellement peu de recherches qui se fait sur la maladie que c'est sûr, qu'est-ce qui va déclencher un retour?
Oui.
Ça, c'est difficile à dire.
OK. Est-ce que c'est une maladie considérée comme une maladie rare ou orpheline?
Non,
non.
C'est une excellente question. Non, parce que le nombre est très, très, très élevé.
Ah,
le
oui.
nombre de personnes atteintes dans le monde dépasse les millions. Au Québec seulement, avant 2020, on parlait d'environ 70 000 personnes atteintes. Puis maintenant, depuis le début de la pandémie, on est rendu on estime qu'on est à environ un demi-million potentiel.
Un demi-million.
De personnes atteintes.
Ouais. Et moi, c'est la première fois de ma vie que j'en entends parler de l'encéphalomyélite myalgique. Est-ce que le diagnostic est long à recevoir parce que c'est une maladie qui a plusieurs symptômes, là? J'imagine que c'est pas nécessairement clair au début là, qu'on souffre de cette maladie-là.
Oui, c'est deux dans une très bonne question. Le diagnostic est très long à recevoir. D'abord parce que les gens ne savent pas, parce que la maladie n'est pas connue, les gens ne connaissent pas effectivement les symptômes. Ça peut s'apparenter à peut-être j'ai trop travaillé, je me sens épuisée. Tu sais, l'épuisement, tantôt je disais, il y a l'épuisement, il y a aussi les troubles cognitifs, la douleur, mais au début, c'est l'épuisement qui est peut-être le plus choquant.
On a beau dormir, on se régénère pas, là.
Oui, mais on peut associer ça à, tu sais, un épuisement professionnel,
ouais.
peut-être. Tu sais, si on n'a pas les connaissances nécessaires, on associe ça à ce qu'on peut. important. Puis comme personne ne parle de cette maladie-là, bien souvent, avant qu'on se dise à notre médecin, il y a quelque chose qui cloche, ça peut prendre du temps, ça c'est une des choses. Puis l'autre chose, c'est que bien, si nous, on n'est pas informés, bien, le corps médical ne l'est pas plus. Ça va être long avant d'avoir un diagnostic. On va souvent associer la maladie à une anxiété généralisée. Donc on va somatiser, en fait. Parce que faute d'explication, faute d'éducation médicale et faute d'explication, les médecins vont chercher une explication là où ils ou elles le peuvent.
Oui.
C'est malheureux. Mais c'est ça qui se passe en ce moment, puis c'est ça qui se passe depuis des décennies là avec l'errance médicale. Oui, on parle d'un minimum de 5 ans. Dans mon cas, ça a été 20 ans avant que j'aie eu un diagnostic.
20 ans?
Et ça fait 30 ans que je suis atteinte.
Ah! Est-ce que quand on reçoit le diagnostic, comment on réagit là, après tant d'années? Est-ce que ça vous a soulagé d'une certaine façon? Ben enfin, je sais ce que j'ai ou?
Ben oui, il y a une part de soulagement. Puis il y a aussi il y a une part de soulagement. Puis dans mon cas, ce qui a été soulageant, c'est que j'ai pu enfin trouver comme une communauté puis des réponses à mes questions.
Oui.
Parce que la communauté, faute de soins, s'est organisée énormément. Puis d'autant plus depuis l'avènement d'Internet, là, donc par les réseaux sociaux, la communauté est comme mise en réseau mondialement. Donc, on s'échange énormément d'informations. Et là, j'ai pu savoir, c'est pas par ma médecin, malheureusement, puis c'est pas parce qu'elle veut pas bien faire, là, mais c'est pas par elle que j'ai su comment au moins me stabiliser, je dirais.
Bon, c'est votre communauté là, qui vous a aidé à mieux comprendre ce dont vous souffriez. L'Association québécoise de l'encéphalomyélite myalgique existe quand même depuis une trentaine d'années. 35 ans cette année?
Oui, exactement. Et 1991, la fondation.
Ah oui, et savez-vous qui l'a fondée?
Ben non, je me suis posé la question avant d'entrer en onde.
Oui.
Puis je me suis dit, j'aurais dû aller voir, mais je pourrais pas vous donner
bon.
Le nom.
Alors, si vous trouvez la personne, vous nous donnerez un petit coup de fil, puis on pourra communiquer l'information. Mais l'association accompagne de quelle façon les personnes qui vivent avec le M?
De plusieurs façons, on a plusieurs mandats. Un de nos mandats, c'est d'informer. Donc, on a redéveloppé un site web. Là, c'est pas nouveau qu'on avait un site web, mais là, cette année, on l'a remis en ligne avec énormément d'informations dedans. Donc, on essaie de développer l'information pour les personnes, pour qu'elles puissent, les personnes et leurs proches, hein. Pour que les personnes puissent avoir accès à de l'information à jour, scientifique, fiable sur comment vivre avec la maladie, mais aussi pour pouvoir les accompagner chez leur médecin. Pas nous, on les accompagne pas, mais l'information. Avoir de l'information fiable à partager aux médecins pour engager un dialogue, des discussions. Pour faire un plan de soins. Ça, c'est une chose. On soutient les personnes aussi via des groupes de soutien, toutes sortes de mesures, là. Tout ça est en ligne, mais on essaie d'offrir vraiment du soutien pour que les gens puissent être ensemble, se solidariser, briser leur isolement, partager de l'information, etc.
Beaucoup de ressources, donc.
Et c'est ça. Donc, on offre toutes sortes de ressources. Puis aussi, on a un mandat qu'on est en train de développer qui va être un mandat de plaidoyer politique et un mandat d'éducation médicale également et de recherche. Là.
Bon, il reste pas mal de choses à faire. Est-ce qu'il y a une équipe importante qui travaille à l'association?
On est une toute petite équipe. Donc, on a une personne à la coordination générale et une personne à la coordination de la supervision scientifique et des communications. C'est une personne à temps plein et une personne à temps partiel. Donc, on fait énormément avec de tout petits moyens.
Oui, j'entends ça. Et vous êtes situé où?
On a pied à terre à Montréal, mais on n'a pas de bureau, en fait. On a une adresse postale et puis tout se fait virtuellement.
OK. Ouais. Et est-ce qu'il faut être membre de l'ACEM pour bénéficier de vos services?
Non. Le membership est un membership de solidarité, je dirais, et d'appui. qui est très important d'ailleurs. Mais on a décidé que l'ensemble de nos services ne serait pas réservé aux membres. La maladie est méconnue, est mal comprise, mal soignée. On veut que le plus possible, on veut éviter le plus possible des barrières à l'accès à l'information puis au soutien.
Vous, Julie Marcoux, comment vous vivez avec cette maladie-là?
Aujourd'hui, je vous dirais que je vis assez bien. D'abord, parce que j'ai la chance d'avoir des proches, une famille et des moyens financiers parce que j'avais une carrière et de travailleuse sociale avant de m'aggraver là, puis de devenir... maintenant, je suis confinée à la maison, mais jusqu'à il y a 4 ans environ, j'étais en mesure de travailler quand même à 4 jours semaine avec beaucoup d'arrêt de travail, mais en tout cas... J'ai des privilèges, j'avais des assurances, donc c'est sûr que ça aide à faire le deuil tranquillement sans avoir à se soucier de d'autres choses, hein, comme trouver de l'argent pour payer son loyer, etc.
Oui, ça peut être une grande source de stress.
Exactement.
Et d'anxiété. Oui.
Je dis souvent aux gens que j'ai la chance, j'étais travailleuse sociale, puis j'étais pas coordonnée à ma chaussée, donc j'ai pu appliquer beaucoup de stratégies pour faire le deuil, etc., à ma propre vie. Donc j'avais cette chance-là. Je suis aussi une personne qui aime beaucoup s'impliquer, puis j'ai pu rapidement changer de champ d'implication, c'est-à-dire travailler avec des populations marginalisées. Là, tout d'un coup, quand j'ai été prise à la maison, j'ai ouvert mon ordinateur, puis j'ai commencé à m'impliquer avec la CEM puis dans d'autres réseaux, là.
Et vous êtes devenue présidente de la CEM.
Oui, après un petit bout de temps, je suis devenue présidente de la CEM, effectivement.
Alors, vous diriez que pour avoir une vie quotidienne agréable, quand on est aux prises avec l'encéphalomyélite myalgique, ça prend des gens qui nous aiment, qui sont prêts à bien nous entourer et de l'argent.
Ben oui, ça aide de ne pas avoir à se soucier de payer son loyer.
Ça,
comme
c'est
je
sûr.
Dis, hein?
Oui.
Des moyens financiers, des gens qui nous aiment, mais après ça, il y a plein de choses qui peuvent agrémenter notre quotidien puis qui aideraient là, des soins à domicile, du ménage, des gens qui nous aident à faire le ménage, à manger. Des outils d'ergothérapie pour aménager le domicile pour éviter de faire des dépenses d'énergie inutiles. Tout ce qui peut réduire les dépenses d'énergie. Donc, il y a un paquet de moyens techniques qui peuvent nous aider. Puis c'est sûr, après des sous, puis des gens qui nous entourent, ben ça, c'est toujours... l'amour de nos proches, hein, ça, c'est toujours énorme. Hein,
oui, ça nous donne de l'énergie, peut-être autrement, mais en tout cas, une force de vouloir continuer, puis aussi d'atteindre ou de vivre dans un certain bonheur, là. Et une meilleure compréhension de la maladie aussi, je pense que c'est important parce que vous devez vous buter à des préjugés aussi. Hein. Fais une femme de toi ou lève-toi et marche, je sais pas trop.
Ouais, vous savez, on a un groupe de soutien Facebook en ligne à la CEM dont je soutiens l'administration, puis on entend à toutes les semaines, si ce n'est à tous les jours, des gens qui nous posent la question ou qui pose la question aux autres personnes membres du groupe. Comment je fais pour expliquer ça à ma famille? Comment je fais pour expliquer ça à mon médecin? Puis pourquoi, malgré toutes mes explications, puis les documents que je donne, puis les vidéos que je partage, les gens continuent de me dire que je suis paresseuse.
Ah.
Ou que... Alors, vraiment, si on peut venir à bout de ça, là, un jour...
Victoire.
Quoi ça va venir, là? Venir à bout de partager de l'information... fiable et de faire comprendre aux gens. On dirait pas à quelqu'un qui a une jambe cassée ou qui a le Parkinson, passe par-dessus.
Mm-hmm.
Puis fais mieux. Puis pousse-toi un peu, puis ça va aller mieux.
Et pourtant, c'est pas nécessairement... Oui.
Pardon,
c'est moi là, qui s'excuse, mais pourtant, c'est une maladie qui n'est pas invisible.
Non, c'est pas une maladie qui est qui est invisible, effectivement. Mais c'est une maladie, comme vous l'avez dit, qui est méconnue. Quand on dit le nom, personne ne connaît ça. Puis, puisque c'était pas connu, puis qu'il y avait une absence de recherche, la seule explication qu'on pouvait trouver ou donner, c'était une explication somatique. Alors, si on parle d'une explication somatique, ben on dit aux gens, mais pose-toi, ça va aller mieux. Donc c'est à la fois politique et historique là, je dirais. Donc on a un bon travail à faire pour pouvoir démêler ça à grande échelle.
Et Julie Marco, on termine avec une question concernant votre infolettre parce que vous en publiez une. Qu'est-ce qu'on y trouve de l'information, j'imagine, puis aussi des bonnes pistes là pour mieux comprendre la maladie?
Oui, ben là notre on est encore en développement, on est à l'aube d'une planification stratégique qu'on vient de finir, qu'on va lancer pour les prochaines 5 ans. Donc l'infolettre risque de se modifier, mais pour l'instant, on en a 2 par mois. Ce qu'on y trouve, c'est un, tous les groupes de soutien en présence, parce qu'il y a des gens, des bénévoles qui organisent des rencontres un peu partout au Québec et virtuellement. Ça, c'est une des infolettes. L'autre infolette qu'on va y trouver, c'est des liens vers des nouveaux documents traduits d'informations. Puis je dis traduits parce que la plupart des informations étaient disponibles seulement en anglais avant. Puis on a entamé un grand chantier de traduction à la CEM. Puis là, on rend disponibles des informations vitales pour les personnes atteintes et leurs proches. Et les médecins et les chercheuses
oui.
via notre site. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on partage ces informations-là, on met le lien vers le site web, on informe les gens que ce nouveau document-là est en ligne, puis on en fait une brève description. Là. Donc, on essaie de diffuser plus largement l'information qui est sur notre site web.
Oui, c'est une excellente initiative. Alors, pour accéder à votre site, j'imagine que c'est pas compliqué, akem.ca? Mm-hmm.
Exactement. Si vous tapez juste akem dans la barre de recherche, ça va directement au site.
Bon. Alors, ça a été un plaisir de vous parler. On en sait plus maintenant sur l'encéphalomyélite myalgique. Et c'était Julie Marco qui est présidente de l'akem, l'Association québécoise de l'encéphalomyélite myalgique. Bon été, puis bonne continuation et bon courage, bonne chance également.
Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
Conociendo la mañana, tu sabor alrededor de mi cuerpo, una sensación que me tiene corriendo. Tengo que saber más de este conocimiento, tu sabor. De mi cuerpo una
Lado Negro et Reina Tropical pour le groupe Lado Tropical, la chanson Canción Sensación.
Wow! Vous m'impressionnez, cher Mathieu Tessier. Engine de poitrine en une du Billboard Canada, le duo québécois Engine de poitrine fait la une du magazine Billboard Canada ce mois-ci avec un grand reportage qui retrace l'ascension fulgurante du groupe rencontré dans les coulisses d'une percée internationale sans précédent. On en parle dans le Journal de Montréal sous la plume de Sarah Emilino. Le prestigieux magazine met en vedette le duo originaire de Saguenay en une de sa plus récente édition. La publication titre « Engine de poitrine, comment deux extraterrestres du Québec ont connu une percée mondiale sans précédent ». Et restons dans le Billboard, la série « Heated Rivalry » continue de faire jaser sa bande sonore originale sortie en format vinyle et CD le 10 juillet dernier. C'est hissé dans le top 10 du Billboard 200, un exploit pour une bande originale d'une série télévisée qui n'avait pas été réussie depuis plus d'une décennie, souligne le magazine américain. La bande sonore a fait son entrée au 8e rang du Billboard 200, qui répertorie les 200 albums les plus populaires chaque semaine. Alors, ça va faire connaître quelques artistes québécois, dont Dumas, Peter et La Bronze. Ici Hélène Denis, bonne journée, à demain!